Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, uniquement sur Transistor. Et aujourd'hui, on est en studio avec Clément, nouvelle voix à cette tribune, Clémence, Aubry et Juliette. Bonsoir à vous quatre. J'espère que vous allez bien en cette dernière émission avant les vacances pour ce 55e épisode. Programme riche pour vous aider à tenir le coup, chers auditeurs, jusqu'à notre retour le 5 novembre prochain. Aujourd'hui donc, on parle de trois films très différents. Un documentaire puissant et politique, ou puissant parce que politique d'abord. Un film d'animation pour enfants, joli et nouvelle production du studio Folimage, ou joli parce que nouvelle production du studio Folimage. Ensuite, et l'hommage fétichiste et passionné, ou fétichiste parce que passionné, du texan Richard Linklater à la nouvelle vague française, à Godard et à Bout de souffle, pour finir. Dans un premier temps, donc, nous accueillons Clément qui vient parler d'un film très important, Soundtrack to a Coup d'État, réalisé par Johan Grimont-Pré, qui cherche à nous montrer toutes les couches historiques, économiques, tous les enjeux impérialistes comme financiers, ou impérialistes parce que financiers, bon j'arrête, qui ont saboté l'indépendance du Congo en 1961. Clément, je te laisse la parole.
Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir lui, et merci beaucoup pour l'invitation, j'espère qu'on m'entend bien. Oui, moi je vais vous parler aujourd'hui de ce film, donc Soundtrack to a Coup d'État, ou Bande son pour un coup d'État en français, qu'on a découvert ensemble avec lui au Festival Lyonnais pour la suite du monde. Et donc Soundtrack to a Coup d'État, c'est un film qui est sorti en 2024 et qui est réalisé donc par Johan Grimont-Pré, donc qui est un réalisateur belge, et le film est franco-belgeo-néerlandais. Il a été nommé aux Oscars en 2025 pour le meilleur documentaire, il a perdu face à Northernland. Et il a été présenté aussi en première à Sundance. Bref, il vit toute une petite vie de festival. Et c'est un film assez important, je pense, pour les auditeurs à voir, puisque c'est un film qui retrace l'histoire de la décolonisation et de l'indépendance du Congo, et de la lutte pour cette indépendance qui a mené jusqu'à l'assassinat de Patrice Lumumba. La spécificité de ce documentaire, et en quoi il est très intéressant dans sa forme, c'est qu'il entretient une relation très particulière avec un genre musical qui est le jazz. Le jazz sert de littéral bande-son ou soundtrack au film, et le film est par ailleurs, c'est-à-dire qu'on entend des morceaux de jazz, et par ailleurs le film est entrecoupé de séquences musicales où on voit des grands musiciens de jazz interpréter des morceaux. Alors déjà on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi ce choix du jazz, pourquoi se mettre des morceaux, mais en fait ce n'est pas tout. Le film entretient une relation encore plus profonde avec le jazz et il révèle surtout une part plus insoupçonnée de l'histoire et de la décolonisation du Congo et de la relation du jazz avec cette histoire. Et il entreprend de narrer cette relation. Parce que la raison qui gagne à la bande-son, à la bande originale du film, sa présence jusque dans le titre, donc sa centralité dans le projet, c'est que le jazz a bel et bien fonctionné, en quelque sorte, comme une bande originale du coup d'État qui a conduit à l'assassinat de Lumumba quelques mois à peine après la proclamation de l'indépendance du Congo. On découvre en effet, dans le film, une part sombre de l'histoire du jazz qui a été utilisée de façon très stratégique, finalement, comme une arme par le gouvernement américain. Alors d'abord une arme en quelque sorte de soft power, comme on appelle ces outils d'influence. Les grands artistes de jazz, leurs morceaux, leurs albums étaient des figures qui représentaient les USA pour le Congo, des espèces de figures culturelles. Mais par ailleurs, de façon beaucoup plus littérale, on découvre dans le film que les concerts de certains artistes comme Nina Simone, Louis Armstrong, Duke Ellington se transformaient en véritables chevaux de Troie pour la CIA. Et l'excavation de cette histoire méconnue devient en quelque sorte le prétexte pour le film à un geste esthétique qui lui offre vraiment un attrait et un pouvoir de séduction assez certain. C'est-à-dire que plus que de raconter cet angle méconnu de l'histoire, Soundtrack to a Coup d'État entend le faire vivre, ou plutôt l'incarner. Et donc, par différents effets de rythme, par des séquences musicales filmées, par les glissements entre ces séquences et le reste de la narration, des jeux avec les intertitres, avec les archives, le film devient en quelque sorte sa bande-son. Il s'autorise à se transformer en elle presque. Et par là, il franchit une espèce d'interdit tacite. Il devient un film purement musical, une espèce de pur film jukebox. Alors pourquoi je parle d'interdit tacite ? Parce qu'il est d'usage dans les discours et les pratiques du cinéma d'entretenir des rapports précautionneux avec la musique. On fera en effet souvent le reproche à la musique de venir souligner, parfois lourdement, parfois quitte à écraser, ce que la mise en scène pouvait dire d'elle-même, ou le montage aussi, bref, des procédés propres au cinéma. C'est un reproche qui est abondamment fait au cinéma hollywoodien, par exemple. C'est-à-dire que, pour être sûr que le spectateur ressente univoquement ce qu'il faut ressentir à ce moment précis, on lui met de la musique en plus. Et dès lors, si vous voulez faire un film, c'est-à-dire si vous voulez réaliser un projet, on vous enjoindra souvent à vous méfier de la musique, en quelque sorte. À ne pas vous noyer, par exemple, si vous faites un moodboard dans tous les morceaux que vous aimez et qui vous plaisent. Mais qu'il est difficile de ne pas succomber au plaisir de la musique dans les films. Et Wong Kar-wai, quand il met 50 fois le thème de Yumeji, bah c'est super beau et c'est super plaisant, donc on a bien le droit quand même. Et là, imaginez que vous êtes en train de créer votre documentaire et qu'au cours de vos recherches, vous tombez sur l'excuse d'or servie sur un plateau d'argent. La musique a toute sa place dans le film si le film parle de musique. Si le film fait intervenir la musique au cœur même, on pourrait dire, de son concept. Depuis tout à l'heure, en fait, je fais une espèce d'exercice de méfiance puisque le film m'a énormément séduit, mais je me méfie de cette séduction. Et j'ai envie, en quelque sorte, d'intenter l'hypothèse de la superficialité pour ce film. Parce qu'il y a vraiment un concept. Le film, avec ce concept, il exerce une vraie séduction sur moi. Et ce, en vérité, avant même que je ne le voie. Comme si ce concept en lui-même était une sorte de parfait argument marketing pour un public cible. Un public cible qui appréciera qu'on lui raconte une histoire en musique, mais surtout sur du jazz. Avec peut-être le capital culturel pour si ce n'est apprécier le jazz, mais au moins s'y intéresser, au moins le comprendre. Un public cible peut-être déjà conquis avant même que ça ne commence. Déjà énervé en fait, en quelque sorte, contre la CIA. Déjà énervé par l'assassinat de Lumumba, à peu près au courant de ce qu'il se passe. Déjà prêt à l'idée même de voir le film, avant même de l'avoir vu, à l'ajouter sur son letterbox et à l'ajouter dans son Pokédex, un autre événement décolonial. Parce que pourquoi centrer, et c'est un peu ma question, la question que je me suis posée, pourquoi centrer le concept du film sur le jazz, alors qu'il existe d'autres genres musicaux emblématiques au Congo qui auraient très bien pu accompagner cette histoire, voire qui l'ont accompagnée, par exemple la rumba congolaise. Alors on entend parfois certains morceaux, mais elle a beaucoup moins d'importance dans le film que le jazz. Or, les sonorités de la rumba continuent aujourd'hui de se faire entendre, elles sont encore renouvelées comme des fantômes d'une mémoire qu'on refuse de voir mourir, de voir disparaître, parce qu'il faut encore s'en rappeler. Et les artistes aujourd'hui, français, congolais, belges, qui sont héritiers de cette mémoire, la reconvoquent au travers de la musique, au travers des sonorités de la rumba, dans le genre musical capable de porter cette histoire dans le présent, dans le contemporain, le rap. Aujourd'hui, les artistes qui font la moitié, et je suis gentil, du top 50 en France, c'est Damso, Gradure, Kalash Criminel, Josman, Nino, Youssoupha, je ne vais pas tous les citer, Gims, Dadju, Tiakola, Niska, ce pas des petits noms. Et c'est des artistes, et c'est un genre musical qui porte cette mémoire en lui. Alors pourquoi pas eux ? On pourrait formuler une hypothèse. Sans doute que ça n'exercerait pas le même pouvoir de séduction que le jazz sur ce public cible que j'imagine, sur la sociologie que l'on projetterait de s'intéresser à un film documentaire de 2h30 dit décolonial, et à se rendre notamment en festival pour aller le voir. Sans doute aussi parce qu'il n'exerce pas le même pouvoir de séduction sur le réalisateur lui-même, qui après tout est un homme blanc, âgé d'une soixantaine d'années il me semble. Et je tiens à dire que le pouvoir de séduction du film continue à être effectif une fois que le film a commencé. C'est pas juste quand je parlais de concept, au-delà du concept, le film marche. Mais je pourrais rapprocher cet effet extrêmement séduisant et très efficace du film, et tout son montage rythmé a une certaine esthétique. En fait, ça m'a rappelé les edits, les montages qu'on voit sur TikTok, sur Instagram, qui utilisent la musique et les textes, les intertitres, pour marquer des effets de rythme. Et il y a des edits surtout, et notamment sur la politique. Et avec Soundtrack to a Coup d'État, on aurait presque une espèce de succession d'edits pendant 2h30, au sujet de l'assassinat de Lumumba, comme une espèce d'équivalent de session de scrolling sur un algorithme d'une personne à peu près politisée, et à la fin de laquelle on finit autant scandalisé que passif. Soundtrack to a Coup d'État, donc, si on suivait cette hypothèse, serait à la croisée des esthétiques les plus séduisantes du contemporain, entre le clip, l'édit et même la pub. Et elle n'userait de la culture musicale afro-américaine que pour une sorte de vernis pour fuir aussi l'aridité de son sujet documentaire de ces 2h30. Ou disons au moins pour l'arranger, mais par là même déplacer le regard, lui refuser un décentrement nécessaire. Et je me serais arrêté là si je ne prêtais au film que de mauvaises intentions. Or, ce n'est pas le cas. Et bien que je me sois d'abord méfié d'à quel point je fus séduit par l'idée et par l'exécution, il faut bien dire que l'efficacité du procédé, déjà, parce que c'est efficace, m'a maintenu attentif pendant 2h30 de documentaire, ce qui n'est pas facile, et 2h30 de documentaire qui m'ont appris beaucoup sur un point crucial de l'histoire de la décolonisation de l'Afrique, que je ne connaissais que très superficiellement, en l'abordant depuis cet angle de la musique et du jazz, de la culture afro-américaine, qui m'a énormément surpris, mais qui m'a aussi énormément passionné. Et si j'ai trouvé cet angle passionnant, ce n'est pas que pour les raisons séduisantes dont je parle depuis tout à l'heure, mais aussi pour des raisons un peu plus profonde. Et pour expliquer pourquoi, il me faut un peu me démasquer à présent et vous dire davantage sur le point de vue et sur le lieu depuis lequel j'ai regardé ce film. Puisque moi, Clément, je suis antillais, plus exactement je suis guadeloupéen et donc afro-descendant, au même titre que les afro-américains en quelque sorte, héritier d'une même histoire et de la même matrice qui est celle de l'arrachement. De l'arrachement à la terre, de l'esclavage et donc de l'asservissement des personnes, des corps et de l'exploitation par un impérialisme blanc et par son capitalisme. Une exploitation dont les formes et les aspects évoluent au fil du temps, au fil de l'histoire et au fil des luttes qui le confrontent, et qui ne se contente pas de se porter sur les corps, mais qui s'étendent jusqu'à la culture. Cette culture, elle se transmet malgré les ruptures. Parfois, elle se mélange de façon organique, parfois, elle se fait aussi enserrer dans les griffes de la marchandisation. Bref, c'est une histoire extrêmement complexe que celle de la culture, et celle des cultures afrodescendantes. Cette culture, ces cultures afrodescendantes, ce sont notamment des prismes, en quelque sorte, au travers desquels je reconnais l'Afrique comme une espèce de terre lointaine et de mer lointaine, en quelque sorte, que je méconnais étrangement et que nous partageons avec l'Amérique et les Afro-Américains. Or, justement, cette culture afro-américaine, incarnée dans le film par le jazz, représente un autre pôle de mon imaginaire et un pôle beaucoup plus connu, étrangement, un lieu brillant dont la culture rayonne comme son histoire de lutte. Et finalement, à bien des égards, c'est la culture afro-américaine qui, à mes yeux en tout cas, et dans mon vécu, a incarné la culture noire dans son ensemble, a fait office de figure de proue. Et j'ai toujours mieux connu Malcolm X que Lumumba, j'ai toujours mieux connu le jazz que la rumba. Et il me semble que la grande force de Soundtrack to a Coup d'État, c'est la façon dont il aborde toutes ces espèces de déséquilibres diasporiques, en quelque sorte, avec une grande justesse. Au premier niveau, il y a bien sûr les interrogations dans le film des artistes afro-américains, dont la musique s'enracine dans une histoire de déracinement, et qui se retrouvent à se représenter devant un public africain qu'ils reconnaissent comme leur semblable et en même temps si différent, et tandis que derrière eux et par le truchement de leur musique se joue le grand drame de la domination blanche qui quelque part rejoue ses vieux standards. Et ce qui est très fort, je crois, c'est que le film touche à toutes ces relations très complexes qui parviennent à se tisser entre les cultures et les histoires africaines et afro-américaines. Car il faut préciser que les artistes de jazz donc, qu'on voit dans le film ne se contentent pas de faire de la musique, ils ne se contentent pas d'être de dociles chevaux de Troie. Ils ont aussi fait partie des voix se levant contre les manigances des anciennes puissances coloniales et des nouvelles puissances impérialistes, les États-Unis au premier chef de celles-ci. Au cours des 2h30 de film, se déploie non seulement la complexe histoire de l'indépendance du Congo, mais aussi les encore plus complexes relations entre les Afro-Américains et les Africains, le jazz et la rumba, l'impérialisme américain et le colonialisme européen, la décolonisation africaine et les mouvements des droits civiques aux États-Unis, mais aussi l'Afrique, les États-Unis et même l'URSS, puisque tout cela se passe aussi dans un contexte de guerre froide. Bref, c'est un tissu aussi complexe qu'intense que la linéarité peinerait à faire entendre. Or, et c'est là, je crois, une grande force du film, quel meilleur genre que le jazz pour incarner cette espèce de concert à multiples voix? D'ailleurs, littéralement, le film se construit sur un entremêlement de voix, de points de vue, au travers le temps et l'espace, qui ne cessent de se répondre. On a notamment la voix d'André Blouin, une militante panafricaniste de la République centrafricaine pour les droits des femmes, qui a été très influente au moment des décolonisations africaines et dans l'histoire du Congo. Et donc, on a des extraits vidéo, des extraits audio et aussi des intertitres tirés de son livre « Mon pays, l'Afrique ». On a aussi la voix du diplomate irlandais Conor Cruise O'Brien et de son livre « To Katanga and Back » où on a encore pas mal d'intertitres. On a aussi la voix et le visage et les écrits d'un auteur congolais contemporain, Inkoli Jean Bofane, interviewé mais aussi lisant des passages de son ouvrage « Congo Inc. ». Et on a encore, plus surprenant, la voix de Nikita Khrouchtchev, des extraits vidéo et des extraits écrits de ses mémoires. À tout cela, il faut encore ajouter les archives de Lumumba, celles du roi Baudouin, celles de Nina Simone, de Louis Armstrong, de Max Roach et Abbé Lincoln, de Malcolm X, de Duke Ellington, de même de Eisenhower, et encore, j'en nommais, bref. C'est un concert où, certes, l'impérialisme blanc rejoue ses standards en quelque sorte, mais surtout, il y a une forme de véritable échange dans lequel, comme lors d'une improvisation, chaque membre peut prendre la parole à un moment pour enrichir ou contredire ce que l'autre vient d'apporter au préalable, et pour tenter de se comprendre en quelque sorte. Il va s'agir parfois de pleurer un peu, parce qu'il y a toujours un peu de blues dans le jazz. Célébrer aussi certaines victoires durement acquises par les luttes, mais surtout il s'agit, par la frénésie de cette musique, d'hurler, de frapper, de souffler la colère, de souffler la résistance, redonner un souffle à la lutte qui n'est pas finie, encore aujourd'hui. Continuer le morceau tant que l'exploitation, tant que l'extractivisme seront en train de pourrir le Congo et l'Afrique tout entière. Tant que l'exploitation continuera sur les corps noirs, tant que la colonisation dévorera les esprits et dévorera la culture. Pour maintenir la flamme, encore faut-il connaître ses standards, et donc connaître l'histoire. Et c'est précisément cette note-là que tente d'apporter au morceau Soundtrack to a Coup d'État. Alors en plus d'être un film très efficace, très plaisant, très séduisant, je crois que son geste esthétique est d'une très grande pertinence, et donc je vous enjoins à le voir, et évidemment Free Congo. Merci de votre écoute.
Merci beaucoup Clément. Soundtrack to a Coup d'État, c'est un film de Jean Grimont-Pré, c'est en salle depuis le 1er octobre dernier.